RFI Matin, le point sur les sports sur le continent africain. Avec vous, Victor Missistrano. On continue d'évoquer la route vers l'Afrobasket qui arrive à son terme. On entre dans la dernière ligne droite. La quatrième journée a eu lieu hier.
Et déjà qualifiée, la République démocratique du Congo poursuit son sans faute. Quatrième succès aux dépens du Mali, 65-59 à Rabat. En seconde période, les Léopards se sont appuyés sur leur défense pour s'imposer, nous explique Michel Perrin, le sélectionneur.
On était des agneaux en première mi-temps. On a eu l'attitude de joueurs qui étaient déjà qualifiés, qui n'avaient pas faim. Et en deuxième mi-temps, on a eu l'attitude qu'on a depuis la première fenêtre, une attitude de loup qui ont faim et qui veulent manger l'adversaire. Parce que c'est ça l'ADN de cette équipe. Défensivement, cette équipe a du cœur et a de l'intensité. C'est extraordinaire. La deuxième mi-temps était une démonstration de ce qu'est une défense, une force défensive collective.
Michel Perrin au micro de Cédric Ralfi. Carton plein aussi du Sénégal, tombeur du Rwanda 96-73 et de la Côte d'Ivoire qui a étrié Madagascar 106-73. A signaler aussi la qualification du Cameroun grâce à un succès sur le Gabon 82-65. Sensation des derniers JO, le Soudan du Sud a aussi décroché son ticket en écrasant le Maroc 69-37. Première victoire de la Guinée d'un point contre l'Angola 66-65 et du Nigeria qui s'est relancé dans ses éliminatoires en dominant la Libye 75-70. Aujourd'hui, place à la cinquième et avant-dernière journée.
Et toujours en basket, coup d'œil sur les parquets américains. Un joueur congolais est en train de se refaire une place en NBA.
Il a été mis récemment à l'essai par les San Antonio Spurs. Bismack Biyombo a vu son contrat de 10 jours prolongé hier pour la même durée. Le pivot né à Lubumbashi était titulaire pour la deuxième fois d'affilée cette nuit en l'absence de Victor Wembanyama, le français blessé jusqu'à la fin de la saison. Défaite des Spurs à Détroit 125-110 avec un Biyombo discret, 2 points de rebond en 11 minutes seulement.
En football, les éliminatoires de la CAN féminine 2026 viennent de débuter.
Et la Guinée et le Cap-Vert se sont quittés dos à dos de partout hier à Thiès au Sénégal. Au terme de ce match aller, la situation aurait pu être encore plus délicate pour le Sili, mené 2-0 à la pause et revenu au score in extremis. À la mi-temps, le sélectionneur de la Guinée, Kaman Kamara, a trouvé les mots justes pour remobiliser ses joueuses après ce premier acte catastrophique.
On n'a pas du tout joué. Mon constat est que les filles, y avait un peu de complexe. Donc finalement, on a bombardé à la mi-temps au vestiaire. Je l'ai rappelé que nous sommes chez nous pour remonter des buts, ça n'a pas été facile. Mais félicitations aux filles parce que ça a été un gros travail. Mentalement, elles doivent être fortes parce que le retour, ça va être très dur parce qu'on va chez l'adversaire. Maintenant, c'est qu'il faut, on va être très motivé, très engagé pour gagner le retour.
Propos recueillis par Tiernoya Diallo. Cette seconde manche, elle aura lieu mercredi au Cap-Vert. C'est très bien parti pour les Togolaises qui, de leur côté, ont surclassé Djibouti 5-0.
Et on termine par de la boxe. Combat de poids lourd ce soir en Arabie Saoudite.
Oui, le géant de RDC, Martin Bakole, remonte sur le ring plus tôt que prévu. Le Congolais s'est lui-même proposé pour remplacer au pied levé le champion britannique Daniel Dubois, malade. Face à Bakole, le Néo-Zélandais Joseph Parker et son bilan de 35 victoires en 38 combats. Mais pas de quoi impressionner l'ambitieux Congolais qui reste sur 10 victoires de rang. Ce soir, c'est un vrai test qui l'attend vers 22h, temps universel.
Merci Victor Missistrano, à demain.
RFI Matin.
Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquel-Rouen.
Dans son discours d'adieu, Moussa Faki Mahamat, le président sortant de la commission de l'Union africaine, s'est félicité de nombreux succès, tout en déplorant quelques insuffisances, lacunes, difficultés et défis. Que retiendront concrètement les Africains de ces deux mandats et à quoi doivent-ils s'attendre avec son successeur?
Pour être franc, les Africains n'en sont déjà plus à se préoccuper de ce qu'a éventuellement réussi ou n'a pas osé Moussa Faki Mahamat. Quant à son successeur, ils sauront avec ce qu'il leur reste de patience attendre de le voir à l'œuvre avant de porter un quelconque jugement. Cette indifférence de fait dénote un scepticisme, sinon une grande défiance des peuples du continent, dubitatif quant à l'utilité de cette organisation dans leur vie. Mais cette défiance vise davantage les chefs d'État que les présidents de commissions plus ou moins malléables qu'ils élisent. Comme si les déconvenus passés de quelques trop fortes personnalités dans ses fonctions avaient fini par inciter la plupart des titulaires à se complaire dans un excès de prudence, confinant parfois à l'inefficacité. Cela n'est certes pas un travers particulier à la seule Union africaine, mais en raison de l'importance des défis à relever, les conséquences ici sont d'une ampleur colossale. Cette fonction requiert du courage pour oser rappeler à leur devoir des chefs d'État plus souvent tentés d'utiliser cette tribune pour conforter leur pouvoir que pour défendre leur peuple. Elle implique de savoir à l'occasion tenir tête aux dirigeants qui prennent des libertés avec les textes qui régissent l'organisation. Lorsqu'un État membre de l'Union européenne viole les règles de l'Union, la Commission de Bruxelles sait le rappeler à l'ordre et même au besoin lui infliger les sanctions prévues par les textes.
Certains premiers responsables de l'organisation qui ont osé tenir tête aux chefs d'État ont eu à le payer très cher.
Cela est certain. Le Guinéen Boubacar Diallo Télé, le Camerounais Nzoé Kangaki, le Togolais Edem Kodjo, autant d'expériences dont les dirigeants africains semblent avoir tiré comme une leçon de médiocrité, préférant des présidents de commissions dociles et obéissants à de trop fortes personnalités. C'est pourtant, à l'échelle continentale, l'une des fonctions qui requiert le plus de créativité, d'envergure et un leadership convaincant. Car l'équation personnelle compte toujours pour beaucoup dans une telle fonction.
En l'occurrence, le président sortant de la commission dit avoir laissé aux dirigeants un document portant sur certaines questions relatives à la survie de l'organisation. N'est-ce pas courageux ?
C'est ce qu'il semble suggérer lorsqu'il affirme qu'un chef d'État a qualifié son document de « brûlot ». Mais il s'est aussi enorgueilli d'avoir passé 17 ans au Conseil exécutif de l'Union, qu'il nomme « Club des ministres des Affaires étrangères », entre l'époque où il y siégeait comme chef de la diplomatie tchadienne et ses deux mandats de président de la Commission. Cette longévité ne lui aura manifestement pas permis d'anticiper et de surmonter les insuffisances, lacunes, difficultés et autres défis qu'il décrit par ailleurs. Pondre un brûlot alors que votre poste n'est plus en jeu, donc pas menacé, ce n'est ni du courage ni de la témérité. D'autres ont connu des difficultés pour avoir justement osé des actions qui valaient brûlot. Et il ne s'agit pas que de l'emblématique Boubacar Diallo Télé, sujet d'élite achevé de manière inhumaine dans les geôles du panafricaniste et néanmoins dictateur Ahmed Sékou Touré. L'Afrique qui s'acharne à achever ses propres héros doit-elle s'étonner d'en manquer dans des positions aussi importantes ? Les peuples du continent sont plus que mal à l'aise pour se plaindre du tort que leur font les autres lorsqu'ils réalisent que pour ne pas respecter les textes et les règles qu'elles se donnent, l'organisation panafricaine s'évertue à dissuader, sinon à casser les prétendants les plus courageux à tout leadership continental.
Merci Jean-Baptiste Placard. Il et elle viennent d'Afrique, d'Asie ou du Moyen-Orient. Toutes et tous ont fui leur pays après avoir été menacés, pourchassés, voire emprisonnés et ont trouvé refuge à Paris, dans un lieu particulier dans Menaces sur l'information. Aujourd'hui, reportage à la découverte de la Maison des journalistes à Paris, créée en 2002. Elle accueille depuis les journalistes en exil dans la capitale française. Pouvant héberger 13 personnes en même temps, la maison est un lieu de vie, d'accompagnement social, mais aussi un espace pour continuer d'écrire et d'informer sans risquer sa vie. Lou et Cal nous emmène sur place.
À la Maison des journalistes, chaque chambre porte le nom d'un média.
Là, il y a la chambre Ouest-France.
Voilà, la chambre Ouest-France qui est un partenaire historique de la Maison des journalistes aussi, l'AFP, la chambre AFP, la chambre Radio France.
C'est Darline Cotière, la directrice de la Maison des journalistes, qui nous fait visiter.
C'est une résidence, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange.
Il y a une grande salle à manger, une cuisine où chacun a son propre placard. Et il y a aussi une bibliothèque où les journalistes reçoivent des cours de français.
Tu es égyptien ? Toi, français ?
Voilà. Pour résumer, une journée type, donc ce sont les démarches administratives, des cours de français pour les non-francophones, les activités d'éducation aux médias et à l'information. Ça peut être des sorties culturelles que nous organisons, des visites de musées, des visites de rédaction. Voilà, donc c'est ainsi que nous les accompagnons.
Un journaliste reste environ 8 mois ici et dès son départ, un nouvel informateur en exil s'installe. Le dernier arrivé, c'est Jiffy Elugba Kabamba. Il a posé ses valises dans la chambre Arte. Il vient de Kinshasa et sa spécialité, c'est l'environnement.
C'est un domaine aujourd'hui qui n'est pas facile du tout.
en RDC, on vous arrête, on vous menace des morts, on vous fait des convocations, on vous kidnappe et tout ça juste parce que vous dérangez en fait les entreprises, des lobbying et tout ça. Moi, j'ai été menacé à plusieurs reprises. J'ai eu des messages, j'ai aussi reçu des menaces physiques aussi qui voulaient me faire taire complètement.
Enquêtée sur des crimes environnementaux, comme le pillage de bois rares dans la province de Maniema en RDC, c'est devenu de plus en plus dangereux pour Djifi Elouba Kabamba. Son départ devenait imminent.
Quand on ne se sent pas à même de parler de ce que l'on voit, c'est une barrière en fait. Ça ne vaut pas la peine de faire du journalisme quand on n'a pas la liberté de l'expression.
Cette maison, c'est le refuge que ce jeune journaliste a choisi pour continuer à travailler. Car même à des kilomètres de Kinshasa, pas question d'arrêter d'écrire.
En France, c'est vrai, j'ai aussi des ambitions. Continuer à apprendre, continuer à travailler avec les autres, collaborer avec des journalistes. Mais être ici en France n'exclut pas le fait que je dois continuer à écrire pour la RDC. J'ai continué le travail et je dois continuer à aborder des sujets pour mon pays. Rien ne s'arrête, donc je continue avec ça.
Parmi les rêves de Djifi Elouba Kabamba, créer un média d'investigation pour parler des crimes en cours dans les forêts d'Afrique.
Lou Ekal pour Menace sur l'information. Que nous évoquent les mots? Comment résonnent-ils en nous? Avant de nous dire au revoir, chaque samedi, des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher à Lucie Bouteloup sur RFI. C'est un mot, une histoire.
Je trouve que la mémoire, ce serait comme un continent gelé, si vous voulez. Et parfois, selon certaines météos du présent, eh bien, ça fait fondre des blocs. Et ces blocs dérivent comme des icebergs pour venir contaminer ou venir se manifester dans les eaux du présent.
Quand on pense à lui, souvent la première chose qui nous vient en tête, c'est sa voix. Singulière et magnétique. On pense aussi à sa musique et aux textes de ses chansons, dans lesquels se mêlent la poésie et un certain sens de l'absurde. Une écriture décalée qui est en quelque sorte sa marque de fabrique et qu'on retrouve dans ses livres puisque Bertrand Belin est aussi auteur. D'ailleurs, il vient de publier La Figure aux éditions POL. C'est son 5e roman. Et pour cet épisode, il a choisi de nous parler d'un mot pour ne pas oublier.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Moi, je voudrais vous parler du mot mémoire. C'est mon dada ces temps-ci. Je m'interroge sur la mémoire. 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 Voilà pourquoi. Et aussi parce que la mémoire, supposément, est un lieu mental dans lequel se trouveraient des souvenirs et lieu mental qui permettrait au sujet en question de se souvenir, la mémoire. Donc c'est quelque part dans le cerveau. On dit qu'il y a une mémoire peut-être ailleurs dans le corps, hein, mais c'est probable. Et la mémoire, moi je vois le cerveau, je vois des activités invisibles, même au microscope, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'électricité, c'est des neurones, des synapses qui communiquent entre eux en envoyant des petites doses d'électricité qui sont codifiées, comme dans un ordinateur, qui ferait des choix très très rapidement pour savoir ce qu'il faut garder ou pas garder. La mémoire, donc je pense à une éponge, le cerveau, tel dans la dimension viscérale du cerveau. On envoie les M de mémoire font un petit peu comme les canyons et les circonvolutions du cerveau lui-même, tel qu'on le voit dans leur présentation anatomique. Et c'est tout ça, quoi.
Écrire des livres, pour vous, c'est un moyen de garder en mémoire?
C'est à la fois un moyen de garder en mémoire, c'est un moyen aussi, peut-être c'est une chimère, et que c'est un vœu bien chimérique, mais de déposer de la mémoire dans un département extérieur qui se trouve être un livre. Mais cependant, on en fait seulement une copie, hein, vous voyez, comme pour reprendre le vocabulaire de l'informatique. Noter un souvenir, c'est en faire une copie. Et une copie, peut-être pas toujours tout à fait exacte, hein, qui subit le biotope, l'environnement dans lequel ce souvenir, cette mémoire est réactivée, quoi. Donc c'est vivant aussi, la mémoire. La mémoire est vivante, la mémoire est capable, le souvenir est capable aussi.
Selon le dictionnaire Larousse en ligne, la mémoire est une activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer des informations. En informatique, c'est également un dispositif capable d'emmagasiner, de conserver et de restituer des données.
C'était un mot, une histoire.
L'extraordinaire Bertrand Belin qui vient de publier La Figure. Et ça, c'est pour la version auteur, parce que pour la version chanteur, vous avez toute une discographie à découvrir et aussi son apparition sur le dernier disque des Liminianas sorti hier avec le titre J'adore le monde. Ça vaut le détour. Bientôt 8h en temps universel et sur la radio du monde de la musique, justement, avec deux Sénégalais, Amadeus et Wally Bi Sek. Le titre Jelly sur RFI est dans la sélection du mois.
Boma bediul khalaatu mala bay Amala mi sona tudu mala bay oy Gañ la taxul nga ba Toñ la taxul nga may reccoy Salaw yeen say nga mer Sama njambar ci yow mi la wekkoy Dootuma wiri wiri jarin daari li momum lay jele Dootuma yoni ken ci sama waji man mi ma koy jeli Dootuma wiri wiri jarin daari li momum lay jeli Dootuma yoni ken ci sama waji man mi ma koy jeli Baramaju fajar fek nga ten jaayoy Bale kar gi raxasina Niki bobu dom ngay wajal
dunda mata ñaano ndate gende dafa koy ju ndax finaloma xewoli malay jox lepp lo ma ñaan dina la may
dootuma def len lu lay metti sama ndaw si ndax sama ndaw le nga don lere sama yone dootuma nangu mi neub di ndax sama diga ak yaw ndax yalla mo def ci ñun lolu wina ay way
gañ la taxul nga ba
toñ la taxul nga may reccoy
Salaw yen say nga mer
Sama nyambar yim la wekoy
Dootuma wiri wiri
Amadeus et Wally Bi Sek, le titre Jelly dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition d'RFI Matin que je vous remercie d'avoir écouté. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation. On se retrouve demain et d'ici là, l'info continue. Très bonne journée.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le MMA, ou arts martiaux mixtes, est un sport de combat de plus en plus médiatisé dans le monde. Malgré une réputation sulfureuse, ce spectacle venu des États-Unis est entré de plein pied dans le sport business. Quelles sont ses recettes et qui en bénéficie? On en parle avec nos invités.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Encouragé par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, le réalisateur Thierry Michel documente courageusement les massacres perpétrés depuis 1996 en RDC. Des preuves par l'image du fameux rapport Mapping dans un film contre l'impunité, l'Empire du silence.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.